Ok. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, merci de vous joindre à cette conférence de presse qui est proposée par un collectif organisateur d'une initiative de boycott de l'élection présidentielle. Donc, on vous propose ce matin de laisser la parole dans un premier temps à Gérard Mordillat. Ensuite, d'échanger avec les journalistes qui sont présents et ensuite avec les camarades qui sont présents ce matin pour le collectif pour un boycott constituant, nous proposons d'avoir un échange à bâton rompu. Donc, nous avons nous allons donc enregistrer cette conférence de presse. Je vous remercie de bien vouloir fermer vos micros, mais vous l'avez déjà fait. Pour prendre la parole, ensuite, vous pouvez utiliser dans la barre en bas de Zoom le petit icône réaction où vous pouvez faire un petit message dans le chat. Donc, Gérard, à toi la parole.
Ben, bonjour à toutes et à tous. Il n'y a pas de hasard, ou comme dit Rimbaud, il n'y a que des hasards. Et il s'est trouvé que sans se connaître, nous avons été plusieurs à écrire, à publier des lettres, des contributions, des textes appelant au boycott de l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, nous voulons le dire fortement et tous ensemble. Nous voulons boycotter l'élection présidentielle. Boycotter cette élection qui nous est présentée comme démocratique alors qu'elle n'est qu'une sorte de parti truqué où les forces financières et leur relais médiatique ont déjà choisi pour nous ceux qui devraient être les lauréats de cette compétition. Le boycott, ce n'est pas l'abstention. J'ai presque envie de dire, c'est le contraire de l'abstention. Le boycott, c'est un mouvement actif et un refus de vote contestant même la nature perverse de l'élection présidentielle. Nous voulons boycotter l'élection présidentielle pour la disqualifier à tout jamais, pour que cette farce électorale cesse et que nous puissions refonder la République sur une base réellement démocratique. C'est pour ça que notre boycott est un boycott constituant. Nous devons nous rendre compte d'une chose. Tous les appels à l'union des forces politiques ou sociales qui défendent le bien commun contre le profit individuel se sont révélés vains et au bout du compte totalement inutiles. Nous devons donc changer de tactique. C'est impératif puisque ça ne sert à rien de répéter l'union, l'union, l'union puisque tout le monde s'y refuse. Eh bien, en réalité, ce qui est refusé, c'est ce mode d'élection qui met en exergue un homme ou une femme qui serait présidentiel et qui serait l'élu presque au sens religieux du terme. Donc, nous devons changer de tactique. Et boycotter de façon très forte pour montrer que nous ne sommes pas dupes du jeu pervers qui nous est proposé et que nous ne voulons pas être les figurants dans une sorte de pièce de théâtre où les rôles principaux sont déjà distribués. Ça, c'est le côté tactique. Sur le plan stratégique maintenant. Une fois que le boycott deviendra le mouvement général que nous espérons, eh bien, restera à créer partout en France des comités de boycott qui seront le soutien des candidats aux législatives. Une élection où là, la probabilité de l'emporter n'est pas totalement nulle. Nous avons un exemple qui est pour nous un exemple remarquable, qui est ce qu'a fait François Ruffin à Amiens, où ayant le soutien de l'ensemble des forces politiques et sociales, il a gagné une élection en faisant un énorme travail de terrain, mais aussi grâce à finalement cette adhésion, il a gagné une élection dans une circonscription où le Front National faisait près de 40% d'ordinaire. Donc, ce n'est pas totalement perdu. Le boycott doit nous servir à ça, doit nous servir de tremplin à réinvestir finalement la volonté populaire, puisque la paralysie des appareils politiques ajoutée à l'ego des candidats, mais on ne peut pas leur en vouloir, c'est le système qui veut ça, nous met dans une situation désastreuse où la seule perspective offerte, le seul horizon serait la défaite. Donc, je le redis une dernière fois, boycottons la présidentielle, constituons une force politique, des forces populaires, politiques et syndicales, et puis balayons l'ensemble de ce modèle qui est un modèle mortifère et désastreux pour les couches populaires, pour les ouvriers, les employés, les salariés, enfin, pour notre monde tout simplement. Voilà, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Et je le répète une dernière fois, le boycott, ce n'est pas l'abstention, c'est une force politique.
Eh bien, merci Gérard. Donc, nous accueillons donc Mourad qui est journaliste pour plusieurs journaux, qui est un journaliste indépendant, et Mathilde Gouanec de Mediapart. Est-ce que vous souhaitez réagir à cette première intervention de Gérard?
Oui, mais Mourad, vas-y si tu veux.
Non, je t'en prie, vas-y. J'ai une question, mais vas-y, je t'en prie.
Bon, moi j'en ai plein, donc j'en pose une déjà. Enfin, d'abord, il y a la question du processus constituant. Il me semble qu'au moins un candidat, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon, défend l'idée de renouveler le système institutionnel de la Ve République, éventuellement par le biais d'une constituante. De ce point de vue-là, on pourrait considérer que ce soit une réponse à la question que vous posez. Et peut-être je pose quand même directement ma deuxième question, qui est celle du danger qu'il y aurait à sauter par-dessus l'élection présidentielle pour se consacrer aux législatives. C'est un pari que font un certain nombre de candidats à gauche. Et que vous semblez faire aussi par la question du boycott, est-ce que ce n'est pas une illusion de penser qu'on pourrait reconstituer une assemblée forte à gauche avec une présidence très à droite, voire à l'extrême droite? Merci.
Vincent, pour répondre dans la première réponse aux questions.
À moins que Mourad Guichard veuille intervenir avant.
Non, je préfère, sinon on empile les questions, j'ai peur qu'après on soit plus sur la première question.
Non, je réagissais sur la formule que je comprends, mais qui n'est pas notre intention, l'idée de sauter par-dessus les présidentielles. On ne veut pas sauter par-dessus les présidentielles, on veut les prendre complètement à bras le corps.
Juste, je ne vois pas qui parle, si vous pouvez juste redonner votre nom.
Vincent Présumé, donc du groupe à plus de soc et de l'Allier, bon, enfin voilà. Donc, je disais qu'on ne veut pas sauter par-dessus les présidentielles. On pense que c'est nous qui les prenons réellement à bras le corps. On pense qu'il y a possibilité d'une victoire, que la seule possibilité d'une victoire dans ces présidentielles, c'est le boycott, donnant son sens à une abstention qui, de toute façon, existera, mais qui a besoin qu'on lui donne ce sens et ce contenu. Et si ça se produit, ça ouvre un processus constituant, ça met en cause fondamentalement les institutions existantes. Et du coup, la démarche de Jean-Luc Mélenchon, qui est de dire « élisez-moi d'abord », et puis en plus il a dit récemment qu'il serait le gestionnaire de la longue durée, pendant ce temps la constituante constituerait, mais lui il ferait comme De Gaulle, nous n'y croyons pas ou nous n'y croyons plus, ça dépend des uns ou des autres, parce que ce n'est pas par cette voie qu'on peut bouleverser ce régime. La question qui nous est posée, c'est celle d'un changement de régime, et on n'est pas pessimiste. On pense que la possibilité d'un ébranlement de l'édifice politique existant est là, dans ces présidentielles, par cette méthode-là. Voilà.
Alors, Robert, à toi, si tu veux bien te présenter aussi. Alors, Robert, tu as un problème de son. Donc, Donc là, on n'y arrive pas. Ton micro n'est pas désactivé, donc c'est un problème de ton côté. Donc je te laisse. Ton micro n'est pas désactivé sur Zoom, donc c'est chez toi. Donc je vais passer la parole à Catherine. Tu regardes, Robert. Vas-y, Catherine. Hein. Donc Catherine, mets ton micro. Et présente-toi, s'il te plaît.
Oui, alors Catherine d'Estombe-Botin, je fais partie de l'équipe de Cerise la coopérative. Voilà, je réagis à. Parce que j'ai beaucoup de copains, d'amis qui sont proches de LFI, ou en tout cas qui s'apprêtent à voter Mélenchon et qui ne comprennent pas ou ont du mal à entendre pourquoi nous n'emboîtons pas le pas de cette sixième République promise. Voilà, moi je crois que de ce point de vue, là où rien ne change, c'est que l'avenir de la nation, avec l'élection présidentielle, elle tient à ce que le roi préside, qu'il porte sur les fonts baptismaux la nouvelle République. Et c'est exactement le contraire de l'ambition démocratique, qui entend que l'enfant, le bénitier, enfin, que l'eau, tout ça soit d'abord une intervention populaire. Je voudrais prendre un exemple. À gauche, on s'est réjoui, à juste titre, de l'élection de Boric au Chili. Et tout le monde a pu lire à quel point son positionnement est à la fois transformateur et en même temps, par plein d'aspects, une énième tentative de non-sortie du capitalisme. Qu'en aurait-il été s'il avait été élu avant l'insurrection populaire qui a entamé la révolution constituante aujourd'hui en cours au Chili? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en 2017, le programme de Jean-Luc Mélenchon donnait l'idée que, ben voilà, il disait à peu près dans ces termes-là, on conserve le président, puis l'Assemblée applique le programme, disait-il, et les Français qui le peuvent participeront à l'élaboration de la Constituante. C'est-à-dire qu'on n'est pas, avec Jean-Luc Mélenchon, dans une démarche a priori populaire. Et déjà, à l'époque, en 17, donc, la démocratie d'en bas, ce n'était pas l'essentiel. Petite remarque, si vous prenez le programme Mélenchon 17 et le programme Mélenchon 22, le poids, j'ai même compté les signes, hein, en gros, la constituante, elle fait plus que 50% de ce qu'elle pesait dans le programme de 2017. Mélenchon nous dit le gouvernement devra rendre des comptes au Parlement. Il n'y a pas le compte pour moi, hein, il n'y a pas le compte. Sortir de la monarchie présidentielle, ce n'est pas attendre les comptes du gouvernement, c'est le Parlement décide sous contrôle populaire et le gouvernement applique. C'est en tout cas pour cela que je me prononce vivement pour changer de République. Et puis, y a le livret enfin, le programme de 2022 de Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon prend le soin d'indiquer que 63% des Français sont favorables à la convention d'une assemblée constituante chargée de rédiger une nouvelle constitution pour la France. Pourquoi faudrait-il attendre l'élection de Jean-Luc Mélenchon pour s'y mettre? Merci.
Alors, merci Catherine. Robert, est-ce que tu veux essayer? Non, on t'entend toujours pas. Hein.
Ah.
Ah, cette fois-ci, je crois que c'est bon.
Bon, écoutez, j'ai rien à ajouter à ce qu'a dit Vincent et ce qu'a dit Catherine, là. C'est exactement ma position comme ancien responsable du Front de gauche, hein. Simplement, j'ajouterais qu'il y a eu une modification de position entre la période Front de gauche de Mélenchon, où de toute façon c'était une constituante octroyée, c'est-à-dire qu'il disait le président décide de rendre ses pouvoirs, une fois qu'il est élu, à une assemblée constituante. Et le Mélenchon de la campagne de 2017, qui était sur une autre position de refus de l'unité dans la campagne de 2017, sur des positions, que des positions non pas social-démocrates de gauche, mais de positions populistes. Voilà, quelle est ma position que j'ajouterai aux interventions de Vincent et de Catherine. Voilà.
Alors, avant de passer la parole à Pierre, nous accueillons Anne Gorouben. Et comme je ne connais pas Anne, je voulais savoir si c'était une journaliste.
Nous la connaissons. Oui. Non,
pas du tout. Anne, d'accord. OK. Voilà. Merci, Anne. Pierre Zarka. Pierre, tu mets ton micro?
Oui. Alors, je participe aussi à l'équipe de Cerise, la coopérative. Pour aller dans le même sens que ce qui a été dit, je voudrais faire deux précisions. D'abord, notre prise de position n'est pas circonstancielle. Peut-être qu'on s'est rendu compte au bout de plusieurs élections présidentielles du caractère démocratique du système. Ça, c'est peut-être notre défaut. Mais toujours est-il qu'il s'agit là, dans sa genèse, de considérer que le président est au-dessus du Parlement, indépendant, et donc que le gouvernement dépend de lui et pas du Parlement. Je ne suis pas un fanatique défenseur de ce qu'était la IVe République, mais on a tendance à oublier que c'est seulement en bénéficiant du prestige d'un De Gaulle qu'on a pu instaurer un système où, pour reprendre l'expression de son fondateur, il se mettait au-dessus des partis. Dans partie, je les mettrais bien aussi au féminin pluriel et pas seulement en singulier. Voilà. Et alors, ça conduit à une manière un peu étrange de parler de la VIe République, puisqu'il a été question de Mélenchon. À partir du moment où un candidat est candidat, ben les autres sont derrière. Comme le nom l'indique, ils sont dans l'ombre. On ne sait plus qui est derrière Mélenchon, on ne sait pas qui est derrière tel ou tel candidat. C'est la personnalité du candidat qui efface les autres. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'à la gauche de la gauche, on a un peu de mal à trouver une voie unitaire parce que personne ne veut être relégué dans l'ombre. Et donc, il y a un vice de départ, c'est-à-dire de nous octroyer par en haut un élargissement de la démocratie, et ça, vraiment, quand on regarde l'histoire du XXe siècle, c'est jamais arrivé. C'est le contraire. Et ça me conduit à une deuxième chose. Je rejoins ce qui a été dit sur le fait que le boycott n'était pas l'abstention. Si on se place du point de vue du mouvement populaire, des mouvements sociaux, c'est-à-dire des gens qui ne se reconnaissent pas dans les partis politiques, c'est pour eux une occasion tout à fait nouvelle d'investir le champ politique pour le bousculer. Et donc, c'est un moyen de dépasser la dissociation, la sempiternelle dissociation entre social et politique, où on voit bien qu'au fond, la définition du mouvement social serait d'aller déposer le cahier des doléances au guichet des politiques. Et bien là, non. C'est on intervient dans le jeu politique pour dire que justement, on ne veut pas.
Merci Pierre. Avant de passer la parole à Jean Blaise, est-ce que Mourad, tu souhaites intervenir, réagir?
Je veux bien, oui. Je reprenais juste une citation tout à l'heure qui concernait le fait que ça pouvait secouer. Secouer le fonctionnement des institutions. J'aimerais juste que vous puissiez expliciter ça, c'est-à-dire en quoi ça pourrait ébranler, je crois que c'était le terme qui avait été employé, en quoi ça pourrait ébranler le fonctionnement de la machine électorale, des institutions françaises, le fait d'avoir un nombre important de gens qui boycottent, donc qui par définition sont vous dites acteurs, mais enfin ou actifs, du moins ce que disait Pierre, mais sont pour le coup invisibles puisqu'ils votent pas. Et en quoi ça n'arrange pas finalement le système d'avoir des gens qui ne viennent pas voter?
Alors Jean Blaise, du coup.
Oui, alors ça m'arrange de répondre un peu à cette question puisque je pense que tout avait été un peu dit sur la précédente. Le fait de constituer une. On ne m'entendait pas, je crois.
Oui, on n'entendait plus là.
C'est de ma faute, j'en ai dit, moi.
C'est bon là. Bon, alors, je disais que ça m'arrangeait de répondre à cette nouvelle question, étant donné que les choses avaient été dites sur la précédente. Je crois qu'il est important de considérer le fait qu'on cherche à donner à travers ce boycott une forme politique qui devrait être une force qui s'impose au sein du jeu électoral. Et il est évident que notre ambition, c'est de lui donner une portée suffisamment visible, c'est pour ça que vous êtes là, en partie, et puis aussi une lisibilité, c'est-à-dire que de bien faire comprendre qu'il s'agit d'opposer au jeu de l'élection d'un élu quelconque le fait que il n'est pas légitime s'il n'a pas au moins la moitié des votants. Hein. Là, actuellement, je crois qu'il y a il y a à peu près 40 et quelques millions d'électeurs potentiels. Si un président n'est pas élu avec au moins la moitié de ces voix-là, il n'est pas légitime et il n'a pas de raison de se réclamer d'une majorité, puisqu'il ne l'a pas. Donc, il est important de rendre cette logique visible, entendable, et de regrouper derrière toutes les forces de ceux qui veulent changer ce jeu qui n'a plus de sens. Il est évident que ce que l'on veut, ce n'est pas abattre la démocratie, mais c'est la changer. Et donc, c'est de dénoncer comment le jeu institué actuellement de la démocratie n'est pas du tout, est un jeu qui a fait son temps, qui ne peut plus correspondre aux aspirations des gens. Effectivement, il n'est pas question d'élire un grand chef qui va encore pendant 5 ans broyer la plupart des espoirs de tous ceux qui avaient voté pour lui. Il est question de repasser par rendre illégitime un système électoral qui ne représente plus rien, puisque à partir du moment où il y aura plus de 50% des gens qui se seront abstenus, comme c'est de plus en plus le cas, l'élection n'a plus lieu d'être reconnue, et à partir de là, donc, porter au sein de ce mouvement de boycott l'idée d'une constituante, de façon à ce que si ce schéma se produit bien, c'est-à-dire 50% de gens qui s'abstiennent, eh bien, il devient logique que la constituante qu'il porte se mette en place.
Pardon, mais excusez-moi, je me permets juste, vous dites que le boycott n'est pas l'abstention, et là, vous parlez d'abstention. Vous dites si plus de 50% des gens s'abstiennent. Où est la vache? J'ai l'impression qu'il y a une petite confusion.
C'est-à-dire que le boycott, finalement, c'est une abstention massive, mais c'est une abstention qui représente une force politique portée par l'idée d'une constituante. C'est pour ça que c'est un boycott. C'est un boycott qui est constitué par une abstention qui n'est plus passive, comme ça l'est jusqu'à présent, mais qui est une abstention active. C'est en cela que c'est un boycott. Parce que derrière le boycott, il y a une idée politique et une force politique qui est très importante.
C'est une campagne collective, donc c'est différent d'une abstention qui est un processus individuel. Peut-être, Vincent, tu veux poursuivre sur ce...
Oui, c'est tout à fait sur ce sujet, parce que on est au cœur du problème. Et je pense que la question de Mourad Guichard, enfin, je pense qu'il réagissait à ce que j'avais dit tout à l'heure sur le fait qu'il était possible effectivement d'ébranler le système. Alors, je dirais deux choses. D'abord, les présidentielles, c'est pas n'importe quoi. Dans la Ve République, tous les 5 ans, tous les 7 ans autrefois, on recharge les compteurs du régime et on repart. Surtout quand c'est un peu usé juste avant les présidentielles, ça fait repartir les mécaniques, en sponsorisant l'extrême droite au passage d'ailleurs, parce que ce présidentialisme lui convient très bien. Et du coup, c'est les élections où l'abstention est la moins importante jusqu'à présent, même si elle commence à être importante. S'il y a une abstention, je reviendrai sur abstention et boycott, mais s'il y a une forte abstention présidentielle, c'est un problème pour ce régime qui est par nature plébiscitaire. Alors après, c'est vrai que les choses peuvent aller au fil de l'eau si personne ne pose ce problème. Et on aura l'extrême droite qui monte, on aura des affrontements sociaux, on aura une situation qui dépérit. C'est bien pour ça qu'on veut provoquer un mouvement conscient sur la question d'un boycott constituant. Cet élément de conscience et d'organisation est nécessaire pour que la donne soit changée, c'est-à-dire pour que l'abstention majoritaire se transforme en autre chose, la volonté majoritaire d'ouvrir un processus constituant. Ce n'est pas gagné à l'avance, mais ça nous paraît être la seule option vraiment réaliste dans la situation à laquelle on en est arrivé aujourd'hui. Voilà.
Vincent, Pierre, pour alimenter aussi cette question.
Oui, pour aller dans le même sens, on a eu les Gilets jaunes.
Est-ce que vous pouvez vous présenter parce qu'on...
Ah oui, Pierre Zarca de Cerise, hein, de la coopérative. Excusez-moi. J'avais fait un papier d'ailleurs, un blog dans Mediapart au mois de novembre. On a eu les Gilets jaunes, on a eu une multiplicité de mouvements qui continuent. On a eu le thème fin du monde, fin du mois, même combat. Tout ça, pour l'instant, s'arrête à la porte du champ politique. C'est la première fois qu'il y a la possibilité d'en faire le début, je dis bien le début, d'une dynamique politique par le refus de ce qu'est, au fond, l'élection d'un monarque, quoi, la désignation d'un monarque. La citoyenneté s'arrête au sortir de l'isoloir et après, c'est le monarque qui décide de tout. Hein, voilà. Et c'est pour ça qu'on parle de boycott constituant et qu'on évoque ce qui peut suivre. Mais ça peut être un déclic, chez combien de personnes, je n'en sais rien, mais ça peut être un déclic sur l'idée qu'il est possible de lier le social ou le sociétal ou l'écologique à la dimension politique et à l'investissement de la dimension institutionnelle, en refusant ça. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Alors, tout dépend bien évidemment de ce que va devenir notre appel au boycott, comment il va être entendu ou pas, mais j'insiste sur le côté début, sur le côté commencement. D'ailleurs, il y a une chose importante qu'a dit Gérard Mordillat dans son introduction tout à l'heure. Il a commencé son introduction en disant ben « Nous, au début, on ne se connaissait pas. » Et ça, c'est très important. On ne se connaissait pas et on est en train de se trouver une forme d'organisation, de vie collective, voilà où nous en sommes. Et ben, il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers, j'ose pas aller au-delà, de personnes qui peuvent tout d'un coup se découvrir ensemble en bousculant le jeu volontairement, pas comme un acte individuel ou passif, parce que dans le mot abstention, il y a l'idée « je ne sais pas quoi faire ». Dans le mot boycott, il y a au contraire l'idée « je prends une décision et je l'assume avec les autres ».
Voilà, merci Pierre. Mathilde et Mourad, est-ce que vous souhaitez à nouveau réagir ? Je n'ai plus d'intervenants pour l'instant.
Oui, on vous opposera, je pense qu'on vous oppose déjà, notamment de la part peut-être des plus jeunes, le danger de l'extrême droite, c'est d'ailleurs un peu c'est d'ailleurs sur ça que la campagne se construit aussi un peu, en tout cas chez certains. Est-ce que comment vous y répondez à cette question-là? Alors, je ne parle pas forcément de l'extrême droite gagnant, mais l'extrême droite gagnant des places, des positions, elle le fait déjà. Et sans même parler de l'extrême droite, de la possibilité que par un boycott qui est actif politiquement, qui est une démarche politique, on favorise encore 5 ans de droite au pouvoir.
Gérard, à toi.
Oui, la question de l'extrême droite est une curiosité pour moi, parce que si l'on prend comme critère, par exemple, la position des candidats vis-à-vis de l'immigration, vis-à-vis des travailleurs sans papier, mais aussi vis-à-vis du mouvement syndical, il n'y a en réalité aucune différence entre les propos de M. Macron, de Mme Pécresse, de Mme Le Pen, de M. Zemmour. C'est effectivement une sorte de néo ou de post-fascisme assumé. On désigne l'autre comme un ennemi. Donc, ce qu'il faut, c'est cesser de rentrer dans ce jeu-là. Alors, c'est sûr qu'on nous dit « vous allez favoriser l'extrême droite ». Non, nous combattons l'extrême droite, mais nous combattons d'abord le système qui permet à cette extrême droite d'avoir la place qu'elle occupe aujourd'hui. Il faut absolument disqualifier ce mode qui est mortifère, mortifère pour l'ensemble des citoyens français. Et je crois que c'est ça le premier mouvement. Et je ne fais qu'approuver tout ce qui a été dit précédemment et ne pas se laisser aveugler par cette chose en nous disant « attention, l'extrême droite arrive ». Mais l'extrême droite n'arrive pas. L'extrême droite est aujourd'hui au pouvoir. Quand on fait la liste des libertés qui ont été supprimées sous le gouvernement de M. Macron, eh bien, je ne vois pas ce que ferait de pire Madame Le Pen, Pécresse ou Monsieur Zemmour, quel que soit celui qui serait choisi. Donc, il faut arrêter de penser ça. Je veux dire, je crois que notre position est une position en dehors de cela et pour réellement refonder la République sur une base démocratique et qui permettra de faire entendre des voix qui ne se font jamais entendre et qui sont ce qui fait le plus peur à tout pouvoir, quel qu'il soit, c'est-à-dire la mise en œuvre de l'intelligence populaire. On l'a bien vu avec, historiquement, avec Lippe, Larzac, le projet constitutionnel, etc. Eh bien, c'est sur ça que nous comptons et sur ça que nous voulons nous battre absolument.
Merci Gérard. Hélène, tu mets ton micro ?
Oui, bonjour, Hélène Chantereau, d'Aplutsoc. Moi, je voulais revenir sur ce qu'avait dit Pierre Zarka tout à l'heure. Effectivement, il y a eu différents mouvements qui se sont mis en branle et que je pense que même la jeunesse, là-dedans, elle s'est engouffrée là-dedans par rapport à l'environnement, par exemple. Et c'est en général les jeunes qui ne votent pas. Pour la plupart, qui ne se sont pas inscrites sur les listes électorales parce qu'ils ne se sentent pas, ils se sentent complètement déconnectés par rapport à ce qui se passe. Ils n'ont plus envie de cette Ve République, ils n'ont plus envie de cette institution. Et c'est ça qu'il faut mettre en l'air. C'est-à-dire que cette répression qu'il y a de plus en plus avec le pass sanitaire vaccinal, cette répression qu'il y a dans les manifestations, de mettre les vaccinés contre les non-vaccinés, etc., ils en ont marre. Et ça, la jeunesse va s'engouffrer dans ce mouvement. Et je pense que quand on parle de boycott constituant, c'est aussi à nous de nous permettre de former des comités, justement, pour le préparer l'après. Et je pense que dans les différents mouvements de grève qu'il y a et qui se sont déroulés jusqu'à maintenant, les gens se sont emparés justement de ça. Ce n'est pas les présidentielles qui les intéressent actuellement, ce sont actuellement comment vivre avec le peu de ce qu'ils ont actuellement, c'est-à-dire on s'aperçoit que la vie est très chère, on s'aperçoit qu'ils sont obligés de se battre pour un salaire décent, ils sont obligés de se battre pour des études décentes, ils sont obligés de se battre pour une santé décente, et à ce moment-là, ils ont envie de se révolter et donc de se retourner contre ces institutions, de se retourner contre les présidentielles. Et ils n'ont pas envie d'y participer. Voilà.
Merci Hélène. Je passe la parole à Fabien. Pierre, je te passe après. Fabien n'a pas pris la parole encore.
Oui, voilà. Bon, Fabien, à plus de soc aussi, et accessoirement art des choix. Je crois que je vais rebondir sur ce qu'a dit Pierre et Gérard au sujet donc, du mouvement social. Je crois que c'est ce qui nous détermine. Je crois qu'on est tous conscients que ce jeu politique de la Ve République est fait justement pour que le mouvement social ne soit pas à part dedans. Il délègue ses pouvoirs à un dieu, à un César ou à un tribune. C'est au choix. Justement, nous proposons d'intervenir là où le mouvement social est exclu. Et pourquoi intervenir là? Parce que je crois qu'il y a un problème avec le mouvement social. Pour l'instant, depuis des décennies, il s'exprimait avec les organisations qui s'étaient données, à travers des syndicats, à travers des mobilisations sur des projets de loi. Et là, on s'est aperçu que depuis les deux derniers, disons, quinquennats, ou surtout depuis le dernier, bon, ben, ces structures jouent de moins en moins leur rôle. Et il n'y a qu'à voir le silence assourdissant qui a accompagné de la part des organisations syndicales le mouvement des Gilets jaunes, qui était un mouvement populaire et éminemment social. Même chose sur le refus du pass sanitaire. Le mouvement social s'est retrouvé pratiquement orphelin. Se mobiliser à un endroit où généralement il est exclu, je crois que ça serait très intéressant et ça lui permettrait justement d'être acteur sur un terrain vierge, ce que disait Pierre, on ne se connaissait pas. On a tout à construire à un endroit où, comme disait Vincent, bon, on n'est pas inscrit au programme, disons. On essaie d'être l'élément, le gros grain de sable dans cette structure. De manière, s'il n'y a pas ça, bon, désolé, les élections vont avoir lieu, ça sera des grandes chances, le père Macron qui sera de nouveau là, rien ne changera. Il y a une conviction de la part d'énormément de gens, et y compris, je crois, des candidats, et même des candidats, et surtout même des candidats de gauche, qui savent très bien que rien ne changera au lendemain des élections avec ce système qui est là, qui est fait pour perdurer. Nous, ce que l'on propose, c'est justement d'essayer d'investir ce champ qui n'est pas le nôtre, mais pour essayer d'être acteur et de voir, bon, bien sûr, plus loin que le boycott, de faire un bon coup. Ce n'est pas un bon coup qui nous intéresse, c'est d'essayer d'être initiateur d'un mouvement qui balayera tout ça. C'est sacrément utopique, mais comme disait l'autre, l'utopie, ce n'est que la réalité de demain.
Voilà. Merci Fabien. Du coup, je laisse la parole à Mourad pour relancer, enfin, Pierre, avant l'intervention de Pierre et Jean-Blaise. Attends,
oui, je vais être très bref. Alors, je m'excuse de nouveau, hein, je contrarie Pierre parce que quand on a la crève, même par Zoom, c'est très gênant. Voilà, je m'en excuse. Hein. Je suis désolé, je repose la question. Quand vous dites on veut être le gros grain de sable dans la structure et que si on dépasse les 50%, le président élu ne serait pas légitime, dans les faits, si. Enfin, je veux dire, j'ai un peu de mal à comprendre comment vous allez devenir un grain de sable et comment un président serait illégitime, alors que, par exemple, Macron est l'un des présidents les moins bien élus de la 5e, ça n'empêche pas de faire à peu près ce qu'il souhaite. Donc, concrètement, comment pouvez-vous gripper la machine avec un boycott à plus de 50%?
Pierre, tu n'as pas été assez convaincant, donc…
Voilà, je vais d'abord commencer par la question de Mathilde Gouanec sur l'extrême droite, et je voudrais en dire deux choses. D'abord, qu'est-ce qui a fait qu'on parle aujourd'hui comme ça de l'extrême droite? Depuis quand a-t-elle monté? À chaque fois, c'est la suite de la désillusion politique qui a suivi les différentes élections, et notamment présidentielles. La première fois qu'on a eu quelqu'un d'extrême droite au deuxième tour de la présidentielle, c'est après l'échec lamentable de ce qu'on a appelé la gauche plurielle. Et depuis, chaque déception, chaque amertume, chaque exaspération peut nourrir, ça ne nourrit pas systématiquement, fort heureusement, mais le champ de l'extrême droite. Et puis, il y a une deuxième chose qui est très importante, et donc ce n'est pas la peine d'en rajouter, quoi, si je puis dire. Mais il y a une deuxième chose qui est très importante, c'est que l'idéologie d'extrême droite, le rassemblement que peut faire l'extrême droite, d'ailleurs, quand c'est nous qui parlons poliment d'extrême droite, sinon on pourrait parler de Marine Le Pen ou de Zemmour, c'est le besoin d'un chef. Et nous sommes dans une campagne qui dit exactement le contraire. C'est-à-dire que la proposition du boycott, c'est la proposition du refus de l'être suprême. Ça a été dit par quelqu'un d'autre que moi tout à l'heure. Et ce refus de l'être suprême est une brèche dans l'idéologie d'extrême droite. Alors, pour venir à la suite de ce que disait Mourad, je vais le dire autrement, moi. Même si mon problème, bien évidemment, je souhaite, comme n'importe lequel ou laquelle d'entre nous, que nous soyons majoritaires, mais je vais prendre les choses au pire, que nous ne le soyons pas. Nous sommes en train d'ouvrir une brèche dans ce qui paraissait l'impossibilité de franchir un mur politique. C'est-à-dire qu'encore une fois, les mouvements s'arrêtaient au pied du politique en considérant que le politique, c'était autre chose qu'eux. Et là, ce que nous proposons, au fond, à des gens que nous ne connaissons pas, c'est de dire, vous faites le lien entre ce que vous ne voulez plus, ce qui ne va pas, ou ce que vous voulez, et vous essayez de casser la logique qui nous a conduit à cette situation. Et je serais tenté de dire que, presque quel que soit le résultat, l'impact de cette campagne, le fait qu'on mène campagne pour dire « je ne joue plus, je ne veux plus de cette règle », et ça ouvre la porte ensuite à une deuxième question. Si je ne joue plus et je ne veux plus de cette règle, qu'est-ce que je veux à la place? Voilà. Là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il va se passer une explosion fantastique au lendemain de l'élection présidentielle. C'est un processus. Et c'est un processus qui est commencé à partir du moment où, ça a été dit, nous nous sommes retrouvés sur la base de ce qu'auraient pu être des actes individuels, et nous en faisons un acte politique, une proposition politique de formation, pas au sens parti politique ou organisation, mais de passage à une espèce de dynamique politique.
À toi, Jean-Blaise. Jean-Blaise ? Il faut que tu...
Excusez-moi, j'ai encore oublié d'allumer le micro. Oui, alors pour répondre aussi à la question de Mathilde Goanec, sur cette question de l'extrême droite, qui est une question éminemment importante, évidemment. Le problème, ce n'est plus pour nous de nous retrouver une énième fois devant cette situation où il est question de choisir entre Le Pen ou Zemmour, et puis d'être obligé de voter Le Pen pour éviter Zemmour, quoi. On voudrait mettre un point d'arrêt à toutes ces situations qui se répètent pratiquement systématiquement tous les 5 ans, en faisant justement de l'abstention, encore une fois, une force de boycott, c'est-à-dire une force politique qui viendra s'interposer dans ce jeu-là, où justement tous ceux qui vont voter par dépit pour quelqu'un qu'ils ne veulent pas, pourront se retrouver dans cette force d'interposition que sera le boycott. Parce que ce boycott, évidemment, donc c'est là où il est important qu'il ait une lisibilité il faut qu'il soit bien clair qu'il représente une force d'opposition par son nombre à ce schéma de choix refusé par une grande majorité de gens. Voilà, donc là, sur cette question concernant la droite, voilà pour cette question-là. Alors, ça répond en partie à la seconde, à savoir pourquoi, effectivement, quand on voit ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, on pourrait se dire, bon, ben, après tout, de toute façon, ils s'en moquent. Mais ce qu'on veut mettre en avant, justement, c'est que quand il y a plus de 50% d'abstention, le président élu ne peut pas parler de majorité. C'est une imposture. Il est illégitime de fait. Il est illégitime parce que les gens qui se sont abstenus ne sont pas des gens épars qui sont partis à la pêche. Ce sont des gens qui veulent que le système change. Et c'est sur ce point-là qu'on a du travail à faire pour que les gens qui rentrent dans ce système de boycott aient bien ça en tête et qu'il ne s'agit pas d'autre chose. Et que donc, quand le jeu électoral sera en mouvement, il soit bien reconnu que c'est ce jeu-là qui se retrouve représenté par l'ensemble des gens qui n'iront pas voter. C'est un boycott qui demande que ce jeu-là s'arrête et qu'on passe directement à une constituante pour changer un jeu démocratique qu'il ne convient absolument plus à la grande majorité des gens. Voilà.
Ok, merci Jean-Blaise. Je propose de passer la parole à Mathilde et Catherine et Marc, ensuite à vous.
Oui, une dernière question, parce qu'ensuite je dois vous quitter malheureusement. Je me demandais quelles étaient du coup les formes d'alliance ou de... Oui, que vous pensiez créer pour à la fois mobiliser sur cette question, au-delà des relais médiatiques, des alliances avec des collectifs déjà constitués ou des initiatives déjà constituées qui réfléchissent à ces questions démocratiques depuis longtemps. Et je répète, encore une fois, pour toucher les jeunes qui fournissent le gros des bataillons d'abstentionnistes et qui pourraient devenir des bataillons de boycottistes. Je ne sais pas si vous validez le terme, mais en tout cas, voilà. Comment vous imaginez ça pour massifier un peu votre initiative et surtout parler aux premiers concernés?
Ok, merci Mathilde. Mourad, est-ce que tu veux poser une dernière question? Parce que je propose, ça fait presque une heure que nous sommes ensemble en conférence de presse, de prendre les dernières interventions.
Mais la question de Mathilde est intéressante. Je m'y associe pour savoir si c'est quelque chose d'uniquement entre guillemets médiatique. Et j'ai vu que vous aviez mis le lien là, boycott présidentiel sur la discussion. Ou alors est-ce qu'il y a quand même une structuration avec les partis? Je m'associe à cette question.
Ok, merci Mourad. Donc Catherine, Marc, Vincent et Pierre, je vous propose donc de terminer cette conférence de presse après vos interventions. Et d'ores et déjà, je remercie Mathilde et Mourad de leur présence. Catherine, à toi. Mets ton micro.
Voilà, je vais essayer d'aller vite. Le boycott, pour moi, il a aussi l'intérêt de renvoyer, justement, quant aux élections, Macron à ses complices de la campagne électorale. Je trouve qu'il n'y a pas, quant à l'idéologie fascisante, il n'y a pas que Zemmour et Le Pen. Je ne sais pas si vous êtes attentif à la campagne couvre Blanquer avec son anti-wokisme puant. Il s'en prend, comme les fascistes en général, aux intellectuels, aux mouvements féministes et aux mouvements antiracistes. Blanquer met les enseignants en rage et dans les conditions terribles qui sont les leurs, ils osent être en grève. Il y a quelque chose qui se passe dans ce pays pour n'être pas dans les clous. Voilà.
Marc, merci pour ton intervention courte. Marc, à toi.
Oui, je veux juste faire une intervention brève. Dans les questions ou les objections de nos amis journalistes, on dirait qu'il n'y a pas eu près de 70% d'abstention aux dernières élections, c'est-à-dire aux élections régionales. 67,8% d'abstention. C'est des pêcheurs à la ligne? C'est rien du tout? Je pense que, tout en étant dans une, évidemment, une élection un peu différente avec l'élection présidentielle, ce mouvement qu'il y ait ou pas appel au boycott va s'exprimer aussi. La question est, encore une fois, les forces politiques, et en particulier les forces politiques de gauche, vont-elles ignorer que près de 70% de la société, la majorité sociale de ce pays, ne se considère plus représentée par les forces politiques et leurs propositions? C'est à nous qui nous opposons à l'élection du président de la République au suffrage universel, entre guillemets, de nous expliquer sur le fait qu'on devrait, pourquoi on appelle à boycotter. La question est que la majorité sociale de ce pays est au bord du boycott. Elle est dans l'abstention, mais parce qu'elle n'a pas encore les moyens politiques, parce qu'ils lui sont refusés par les forces politiques de gauche qui, une fois de plus, veulent la précipiter, et en plus dans la division absolue, dans la défaite face à ce système. J'ai terminé.
Ok, Marc, Vincent et Pierre, c'est important de répondre à la question de Mathilde sur la massification et les alliances.
C'est ça dont je voulais parler. Bon, il y a ce jour 120 signatures sur cet appel. Alors, ce n'est pas un appel qu'on a fait signer sur les marchés, c'est des signatures de militants contactés par nos différents réseaux, celui de Cerise, celui d'Aplutsoc, d'autres petits groupes courants. Il y a pas mal de syndicalistes, il y a des gilets jaunes. Et on va faire une réunion. Pardon, des artistes.
Il y a des artistes aussi.
Pas que Gérard Mordillat, d'ailleurs. Et on va faire une réunion des signataires le samedi 22 janvier pour discuter de comment on s'organise et de quelle est la suite. On veut monter aussi des comités locaux. Alors, pour ma part, dans l'Allier, je peux dire qu'il y a en gestation d'ici la fin du mois. Alors, c'est un peu perturbé par le Covid, les réunions en ce moment, mais on va essayer de faire face. Des réunions à Montluçon et à Commentry, peut-être à Moulins. Donc, structuration nationale, émergence de comités locaux, le tout de façon très ouverte et très offensive à la fois. Voilà, il y a ne serait-ce que 3 mois, on était une poussière d'individus ou de petits groupes qui ne se connaissaient pas. Donc, il y a déjà eu un seuil qualitatif de franchi. On veut continuer.
Merci, Vincent. Pierre?
Je vais prolonger ce qu'a dit Vincent sans le répéter, donc je vais aller très vite. Donc, je prends complètement à mon compte ce qu'il dit. Je voudrais insister juste sur une dimension. Vincent a évoqué des comités locaux. Nous ne nous considérons pas comme propriétaires de ce que peut devenir ce mouvement. C'est-à-dire que le problème d'alliance n'est pas un problème de rencontre entre appareils pour se dire « ah bah tiens, moi je pense ci ou moi je pense ça ». C'est l'idée que chacun peut traiter ça, ce problème de boycott à sa manière, que plus il y aura de portes d'entrée, c'est un peu comme la différence entre un scanner et une radioscopie, plus il y aura de portes d'entrée et plus on arrivera à bien cerner les motivations qui peuvent conduire à un mouvement large. Il y aura certainement des lieux de rendez-vous, des lieux de coordination, nous n'avons pas parlé de tout ça, mais encore une fois, nous n'appelons pas à nous rejoindre, nous appelons à faire, ce qui n'est pas la même chose. Voilà.
Voilà, merci Pierre, merci à toutes et tous de votre présence à cette conférence de presse. Mathilde et Mourad, si vous souhaitez avoir d'autres coordonnées, vous avez le mail hein, boycottconstituant@protonmail.com. On peut vous communiquer des coordonnées personnelles. Et puis ben, voilà, merci beaucoup de votre présence et je vous souhaite une bonne journée.
Merci pour votre accueil, bonne journée à toutes et tous.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Bonne continuation.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Alors, j'arrête l'enregistrement.